Stop ou encore, c'est à peu près la question à laquelle les Américains étaient invités à répondre mardi 6 novembre dernier. On parle des élections de mi-mandat aux États-Unis, les fameuses mid-term. Avec vous ce matin, Stéphane Beaumont. Bonjour Stéphane.
Bonjour Isabelle, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Stéphane, stop ou encore Trump, on est d'accord, ces élections, ce sont un peu un référendum pour ou contre Trump.
Oui, ça s'est transformé en référendum. On vote, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Oui, vous avez un chat.
Au mauvais moment, et je n'ai pas de verre d'eau, mais ça va aller tout seul. Référendum, il y a une personnalisation du pouvoir, donc la conséquence de cette personnalisation, c'est de voter pour ou contre l'homme qui incarne ceux qui vont se faire réélire, soit ou élire, soit comme député, soit comme sénateur.
Alors Donald Trump, on l'a dit, il aurait fait plus de 30 meetings à travers le pays.
37,
voilà, pour ses mid-term. Alors pour quel résultat? On a le sentiment, à entendre les analystes politiques, que les deux camps ont gagné ou que peut-être Trump a moins perdu qu'escompté.
Oui, il y a effectivement une analyse de ce genre-là qu'on peut conduire. Chaque camp a des raisons de se réjouir du résultat. Les démocrates, parce qu'ils ont reconquis la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, et les républicains, parce qu'ils ont gardé à deux sièges près le Sénat. Donc il y a une sorte d'équilibre, ce qu'on appelle aux États-Unis les « check and balance », c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs, qui permet d'avoir une démocratie représentative et pas le pouvoir dans une seule main. Il y a également la question de la cohabitation. En gagnant la Chambre des représentants, les démocrates obligent Trump à négocier et à faire en sorte que le budget soit convenable. Sinon, la Chambre des représentants peut bloquer, faire un veto sur le budget de l'État. Donc, avoir le Sénat, c'est bien, pour différentes raisons, notamment de politique étrangère. Avoir la Chambre des représentants, c'est aussi bien, dans la mesure où elle implique une cohabitation que Trump, d'après les premières déclarations, n'est pas prêt à accepter.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle de cohabitation aux États-Unis? Est-ce que c'est un mot qu'on entend là-bas?
Non,
aussi
non. Cohabitation ou coexistence pacifique ou coexistence tout court, c'est le jargon de la politique en France. Aux États-Unis, c'est pas du tout exceptionnel. Clinton l'a connu, pour Obama l'a connu. La cohabitation, c'est un mode normal de fonctionnement de ce qu'on appelle souvent aux États-Unis, je vais le dire en anglais, on excusera mon anglais, mon accent, congressional government, gouvernement congressionnel.
Je crois que j'ai compris.
Congressionnel.
Stéphane Beaumont, vous nous l'avez dit, les démocrates ont repris la Chambre des représentants, les républicains, eux, conservent le Sénat. Pour les moins américanophiles, en tout cas ceux qui connaissent pas exactement comment ça se passe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le scrutin en lui-même, et qui votait et comment, et c'est quoi ces deux chambres?
Oui, les deux chambres, c'est l'équilibre des pouvoirs, les représentants des États qui sont au Sénat. Vous avez deux représentants par État américain, donc vous avez une même représentation en termes de nombre, quelle que soit la population, alors que la Chambre des représentants, elle est proportionnelle à la population et donne des résultats donc différents. À noter que les élus ont un peu changé, notamment grâce à la poussée démocrate, puisque les femmes sont plus nombreuses, avec notamment Pelosi, la doyenne qui va être présidente de la Chambre des représentants, qui a 78 ans et qui est toujours dans une forme politique olympique.
On a beaucoup parlé d'ailleurs de profils issus de minorités.
Oui, minorités, donc les femmes, comprises dans les minorités, d'après les politologues, les immigrés, ceux qui sont d'une deuxième génération qui est rentré aux États-Unis, et cette nouvelle génération peut avoir des conséquences sur les prochaines présidentielles qui seront bien sûr très importantes, puisque manifestement Trump est candidat à sa propre élection.
Alors 60%, oui, 2020, horizon 2020, 60% des électeurs auraient voté pour ces élections. On parle des mid-termes avec vous ce matin, Stéphane. C'est un record. Qui votait parmi ces électeurs? C'était qui les électeurs? Les grands électeurs?
Les grands électeurs pour le Sénat, la population pour la Chambre des représentants. Et ce qui est important pour la Chambre des représentants, c'est de savoir que la Chambre des représentants a un pouvoir d'enquête et peut quand même jouer un rôle dans la procédure ou non d'impeachment à l'égard du président, puisque cette procédure peut être mise en route par notamment ce qu'a permis le procureur Mueller concernant les enquêtes relatives aux élections de 2016 et l'influence éventuelle des Russes.
Ces élections, c'est l'émergence d'un contre-pouvoir, vous pensez, que pour Trump?
On dit souvent que les États-Unis, c'est l'application de Montesquieu, et on dit souvent que Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Je dirais que Montesquieu, c'est plutôt la non-confusion des pouvoirs, et cette non-confusion des pouvoirs permet à chacune des deux chambres d'avoir un rôle important et un rôle effectif. Alors, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire avec la Cour suprême qui joue un rôle important et qui montre que le pouvoir juridictionnel n'est pas à 20 mots aux États-Unis et s'inspire là carrément des débuts de l'état d'esprit de la Constitution de 1787 et de la Convention de Philadelphie.
Eh bien, on va rester avec Montesquieu, donc ces élections aux États-Unis, l'illustration de la non-confusion des pouvoirs, nous dites-vous, Stéphane. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine.